Myriam Martin, bonjour, vous êtes avec nous au téléphone.
Bonjour.
Alors vous nous appelez du sud-ouest de la France,
Tout à fait.
puisque vous êtes conseillère régionale dans Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, hein, donc ces grandes régions qui a été agrandie. Et donc vous êtes également du mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire, et vous êtes donc d'une composante du front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, dont on parle ce matin également. Mais là on va parler d'un autre sujet, c'est donc le BDS, ce qui veut dire en fait boycott, désinvestissement, sanctions. C'est une campagne en fait un peu internationale qui est relayée en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le BDS?
Écoutez, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, une campagne internationale. Hein, ce n'est pas qu'en France que cette campagne se déroule et depuis maintenant pas mal de temps, parce que ça remonte à plusieurs années. Il s'agit en fait de manière pacifique d'expliquer qu'on ne peut pas continuer avec la politique d'apartheid du gouvernement israélien vis-à-vis des Palestiniens, et notamment on ne peut pas accepter ce qui est d'ailleurs condamné par l'ONU, c'est-à-dire la confiscation de terres dans le cadre de colonies israéliennes, et dans ces colonies israéliennes sont produits des choses qui après sont vendues vers l'extérieur, en Europe par exemple. Nous on dit, pour essayer d'avancer sur cette question palestinienne et que les droits des Palestiniens à avoir un État soient reconnus, il ne nous faut pas accepter d'acheter des produits qui sortent de colonies qui sont illégales et reconnues comme illégales par l'ONU notamment, et qui font qu'aujourd'hui, on empêche aussi d'avoir une vie économique pour le peuple palestinien. Donc nous on dit il y a une solution qui a déjà été une solution pour d'autres combats, en leur temps, je pense notamment à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. On veut utiliser cette campagne de boycott pour pouvoir sanctionner d'un point de vue économique et uniquement économique le gouvernement israélien.
Et je crois qu'il y a eu des conséquences de cela, en tout cas de ce boycott ou de cet appel au boycott. Ce sont des militants mulhousiens, donc des Français, qui ont été condamnés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé?
Ben écoutez, c'est une aberration parce que nulle part ailleurs ça se produit, sauf en France. C'est-à-dire que des militants qui, tout simplement, distribuent par exemple des tracts à l'entrée d'un supermarché où sont vendus des produits israéliens qui viennent des colonies, ont été condamnés tout à fait récemment dans le cadre de cette campagne boycott, puisque aujourd'hui appeler au boycott de produits israéliens serait une incitation à la haine raciale, serait une incitation à la discrimination vis-à-vis des juifs. Moi qui suis une militante antifasciste de la première heure, qui suis une militante antiraciste, qui ne supporte ni la xénophobie, ni le racisme, ni l'antisémitisme, je suis outrée. Parce qu'il n'est pas question là de stigmatiser qui que ce soit, mais de dénoncer une politique gouvernementale qui est celle du gouvernement israélien. Donc en France, on ne peut plus s'exprimer, c'est ça que ça veut dire. On ne peut plus lancer des causes justes, et y compris choisir des solutions comme le boycott, des investissements sanctions, qui sont des solutions pacifiques, qui en fait ont pour objectif de sensibiliser la population en France et ailleurs et en Europe, la sensibiliser pour dire tout simplement voilà ce qui se passe dans les colonies, voilà ce qui se passe vis-à-vis du peuple palestinien. Il faut condamner ces politiques qui sont des politiques d'apartheid, des politiques discriminatoires vis-à-vis des Palestiniens. Et voilà, nous avons choisi, nous, une arme qui est une arme pacifique, mais une arme efficace. Je pense qu'elle doit être efficace pour qu'on arrive à condamner, effectivement, des militants qui se battent dans notre campagne pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions. Donc, gouvernement israélien qui mérite à sanctionner 1000 fois. Je veux dire, ce n'est pas que nous qui disons que Israël outrepasse ses droits vis-à-vis des Palestiniens, et en particulier dans les colonies qui sont quand même aujourd'hui toutes illégales, et qui confisquent des terres à des Palestiniens. Donc c'est scandaleux ce qui se passe en France, et on est outré, et on va dénoncer, continuer à dénoncer ces condamnations qui n'ont pas lieu d'être.
Alors quand vous parlez de boycott non violente, on pourrait estimer que cette action peut, là elle est politique en fait, elle est politique par rapport à une politique
tout
justement d'un gouvernement, mais elle peut être aussi contre une multinationale qui pollue, enfin qui exploite par exemple des enfants, des choses comme ça.
Donc, je pense que c'est une arme qui peut être utilisée dans le monde entier pour dénoncer les dégâts par exemple du capitalisme et des multinationales sur l'écologie, sur l'environnement, sur les hommes, il n'y a pas de souci, ça a déjà été utilisé, et je vous dis, c'est utilisé dans le même esprit dans d'autres pays, sans que les militants soient poursuivis et condamnés. Donc là, il y a une exception française, je dirais, qui n'est pas glorieuse, hein, pour le coup, et qu'il faut condamner aussi. Ouais.
Alors moi, j'ai vu, en fait, alors, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement de Netanyahou, donc voilà, celui qui était à l'origine de cela, enfin en tout cas, qui mène une politique vraiment, voilà, que vous dénoncez, ce gouvernement a décidé la création d'un département ministériel spécifique pour lutter contre, bien, pour lutter pour la lutte anti-BDS, donc pour lutter contre le boycott bien du monde entier, notamment l'Europe, enfin à travers vous également en France. Voilà, donc vraiment pour eux c'est important d'aller contre ça. Et j'ai vu d'ailleurs hier au journal de France 2 un reportage où justement il y a les opérations de communication où en fait dans les entreprises donc là dans les territoires de la Cisjordanie, donc les colonies donc israéliennes sur le territoire palestinien, des entreprises donc invitent en fait la presse pour venir pour dire à ces journalistes que dans ces entreprises, eh bien, il y a des Palestiniens qui travaillent. Et même, il y a des témoignages d'ouvriers palestiniens qui disent, bah, moi, je suis bien ici, c'est très bien, ça me donne du boulot, quel que soit, en fait, ce soit une entreprise palestinienne ou israélienne, pour moi, c'est pareil. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben, écoutez, avez-vous déjà été en Palestine? Moi, j'y étais, dans une délégation, il y a quelques années de cela. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a un chômage qui est terrible dans les territoires palestiniens et les Palestiniens font ce qu'ils peuvent pour vivre et je dirais plutôt pour survivre. Donc quand vous avez l'opportunité de travailler, vous n'allez pas forcément cracher dessus. Je pense que c'est de la fausse communication ou une sorte d'intoxication. En réalité, beaucoup de Palestiniens n'ont pas le choix. Tous les jours, ils se déplacent vers Israël pour travailler. Ils passent le checkpoint deux fois, trois fois, quatre fois par jour. C'est une vie qui est assez insupportable. Mais quand vous avez besoin de nourrir votre famille, de faire vivre votre famille, bah, vous prenez ce que vous avez. Parce que nous n'avons pas un État qui est libre aujourd'hui et qui peut agir à sa guise. Donc, pour moi, ça n'est pas un argument. C'est simplement de la mauvaise communication. Et si il y a cette mauvaise communication à un département dédié à la lutte contre la campagne BDS, c'est bien parce que la campagne BDS, au fond, touche une corde sensible. Et je dis bien qu'il y a aussi des élus dont je suis qui feront tout pour tisser des liens avec des Palestiniens qui se battent dans le cadre aussi de cette campagne BDS, parce qu'elle est bien sûr relayée sur le terrain en Palestine. Il y a énormément d'élus qui sont et qui se retrouvent comme moi dans cette campagne BDS. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les poursuivre? On va les empêcher de s'exprimer? On va les traîner devant les tribunaux? Je pense que tout ceci n'est pas sérieux et qui prouve encore une fois qu'il faut aller vers une solution pour la paix et pour la justice en Palestine. Comme ça, effectivement, on n'aura plus besoin d'utiliser les outils qu'on utilise, mais en tout cas, pour le moment, nous utilisons un outil qui fait appel tout simplement à la liberté d'expression. Voilà, on est libre, hein, de dénoncer ce qu'il se passe en Palestine et en Israël. Et on est libre de dire, il ne faut pas acheter des produits qui sont fabriqués dans des colonies dont on a confisqué les terres aux Palestiniens. Ça n'est pas possible. Encore une fois, ce n'est pas Myriam Martin qui le dit, c'est aussi les résolutions de l'ONU. Donc elles ne sont pas respectées et on est peu, disons, amène dans ce pays, en France, à faire respecter ces résolutions. Alors qu'il y a des accords européens entre aussi l'Europe et Israël, et ces accords devraient être dénoncés, puisque justement Israël ne tient pas compte des résolutions de l'ONU. Pourtant, l'Europe continue effectivement à avoir des liens privilégiés avec le gouvernement israélien et devrait au contraire dénoncer ces liens, parce que d'un point de vue économique, hein, notamment, je vous dis, c'est une arme pour nous, parce que justement, les droits des Palestiniens, eux, sont complètement niés.
Je voulais rappeler que dans ce reportage que j'ai vu, il y avait aussi le point de vue bien de Palestiniens, évidemment, on voyait beaucoup de monde, et notamment des femmes, hein, qui voilà, qui relayaient cette campagne BDS pour dénoncer, voilà, le fait que donc pour dire que voilà, c'est pas forcément une réalité là-bas d'entendre des ouvriers qui sont contents, des ouvriers palestiniens qui sont contents de travailler dans des entreprises tenues par donc des Israéliens.
C'est une minorité, mais qu'une minorité, y compris qui n'a pas le choix, souvent, oui. Et bien souvent.
Est-ce que vous comprenez que, enfin, quand on parle, vous disiez voilà, ça peut mener à confusion parce que on peut confondre le l'antisionisme et l'antisémitisme, mais on a vu que il y avait une certaine porosité entre, je dirais, voilà, les dénonciations en fait des gens en France qui défendent le peuple palestinien et puis en même temps qui dénoncent les agissements donc des Israéliens et notamment chez les jeunes, je pense. Il y a des fois des raccourcis qui sont faciles à faire Et on est vite passé en fait, on est vite passé d'une dénonciation d'une politique à de l'antisémitisme pur et dur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Bon, écoutez, pour moi, l'antisémitisme est inacceptable. Voilà. Il faut lutter contre tous les racismes, donc il faut lutter contre l'antisémitisme. Et il peut y avoir effectivement des confusions entre la lutte contre une politique, celle du gouvernement israélien, et l'antisémitisme, donc un racisme contre les Juifs, qui est vraiment inadmissible. Cette confusion, elle existe, mais je pense qu'elle n'est pas majoritaire et qu'il faut la combattre. Il faut beaucoup de pédagogie et expliquer que, au contraire, le combat contre la politique menée par Israël, qui est une politique d'apartheid, hein, quand même, hein, très discriminatoire, elle n'a rien à voir, voilà, avec les Juifs en France ou ailleurs, et qu'il ne faut pas mélanger les deux. Moi, je suis de ceux qui sont très très clairs là-dessus, donc je n'ai aucun problème, mais il ne faut pas, à l'inverse, que ça serve d'argument pour dénoncer finalement les campagnes comme BDS ou les campagnes qu'on peut mener, pardon, pour la lutte des droits du peuple palestinien. Voilà. Ça serait trop facile aussi, du coup, d'écarter cette lutte nécessaire. Et la confusion, si certains la font, ils ont tort, il faut combattre cette confusion, mais il ne faut pas non plus abandonner la lutte pour les droits du peuple palestinien, et il ne faut pas avoir peur de dire que la politique du gouvernement israélien, elle est absolument inacceptable, elle est injuste, elle est très dure, elle est très violente. Et il faut absolument que cette politique, elle cesse, et qu'il faut défendre, je crois, tous ceux qui se battent pour reconnaître le droit du peuple palestinien et le droit des deux peuples à vivre en paix, tout simplement, avec des droits respectifs.
Voilà. Alors, je voulais rappeler aussi que cette campagne, elle prend aussi une dimension, justement, qui peut toucher des jeunes, parce que il y a des vedettes, hein. Il y a Pharrell Williams qui fait la pub un petit peu de produits, justement, fabriqués dans les territoires occupés par les Israéliens, les territoires palestiniens. Et puis, il y a, je crois, une autre actrice, je crois, anglaise, quoi, qui fait la promotion, qui fait des publicités de produits, justement, qui issus là-bas. Donc, voilà, on en parle beaucoup, et dans le monde, en fait, ça fait un gros buzz. Ça fait un gros buzz, mais finalement, là-bas, on n'a jamais réglé ce problème. Ce problème dure depuis quoi? Bah, depuis la création de l'État d'Israël. On n'a pas réglé
Tout à
ce
fait.
problème. C'est quand même grave que ce problème continue d'exister. Est-ce que les États-Unis les soutiennent toujours Israël? Est-ce qu'il y a des possibilités d'organiser, je sais pas, des conférences pour régler ce problème et respecter en fait des accords qui ont été signés et qui ont été souvent contrariés, quoi.
Je pense qu'il faut s'appuyer sur les deux choses, à la fois tout ce qui peut permettre à la diplomatie d'avancer. Disons, ce qui a été la règle pendant longtemps, qui n'ont quand même pas donné grand-chose malheureusement, hein, la tenue de conférence, avec une issue qui n'était pas non plus toujours très évidente, notamment pour le respect des Palestiniens. Mais il est évident que si on n'avance pas d'un point de vue diplomatique, politique, avec, je crois, la pression des mouvements sociaux, voilà. C'est pour ça que je disais que la pression de ces mouvements, que ce soit la campagne BDS, que ce soit la campagne qui a existé, un bateau pour Gaza, etc., on n'avancera pas, et on n'avancera pas effectivement avec la violence, hein, avec l'affrontement ou en prenant la guerre. Mais il faut bien comprendre que tant qu'il n'y aura pas de justice en Palestine, il n'y aura pas de paix. Voilà, tant qu'on n'aura pas reconnu, eh bien, que ce qui permettrait aujourd'hui d'avancer, c'est-à-dire que le peuple palestinien puisse avoir un État dans les frontières d'avant 67 avec Jérusalem-Est comme capitale, c'est-à-dire partager les terres, tout simplement, on n'avancera pas. Et il y a un manque de courage terrible des grandes puissances. Oui, un manque de courage terrible des grandes puissances européennes, et j'y mets dedans bien évidemment la France, des États-Unis. On pouvait espérer avec Barack Obama, une avancée sur ce dossier, et ça n'a pas été le cas, et pourtant il achève son mandat. Il faudra qu'il y ait la pression des peuples, hein, solidaires du peuple palestinien et de sa situation intolérable, insupportable, pour pouvoir avancer, parce que, encore une fois, des solutions peuvent exister, mais si on attend, les tensions, les conflits, la haine aussi s'installent, et c'est de plus en plus difficile, bien sûr, de dialoguer après, de discuter. Or, c'est à ça aussi qu'on doit servir, je pense que les élus dans ce pays, notamment, les militants politiques aussi, les associations, les collectifs, les organisations syndicales, qui se battent aussi dans le cadre de la campagne BDS, doivent pouvoir aussi s'exprimer pour dire et interpeller les dirigeants de nos pays pour leur dire maintenant il faut prendre vos responsabilités.
Et puis on a vu lors de la dernière intifada, hein, ce qu'on appelle la guerre des pierres, que je dirais les forces en présence étaient complètement inégales. Enfin voilà,
C'est toujours
des enfants.
déséquilibré. Quand
Ouais.
vous avez une armée qui est surarmée justement face à des gamins avec des pierres, on ne peut pas parler d'égalité, on ne peut même pas parler de conflit. On a vraiment tout simplement bien souvent de la répression. Et ce sont les Palestiniens qui payent la note la plus chère quand même, hein, même s'il y a des victimes de part et d'autre. Donc non, on est obligé aujourd'hui d'intervenir.
Donc en fait, cette campagne continue. Est-ce que, parce que quand on dit que des militants donc de l'Est de la France ont été condamnés par rapport à une circulaire Alliot-Marie, qu'est-ce qu'elle dit cette circulaire? Et est-ce qu'il y a encore des risques pour des militants de se faire condamner?
Bien sûr, nous, ce qu'on demandait depuis des années maintenant, parce qu'elle date, cette circulaire à Alliot-Marie, qui condamne effectivement les militants qui mènent cette campagne boycott, désinvestissement, sanctions BDS, donc parce que justement, ils seraient soupçonnés d'incitation à la haine raciale. Nous, ce qu'on demandait et qu'on espérait, avec l'arrivée de M. Hollande au pouvoir, un changement, paraît-il, de couleur politique, on espérait que cette circulaire, elle disparaisse, tout simplement, et qu'on continue à pouvoir mener ce type de campagne en toute sérénité et tranquillité, parce qu'encore une fois, c'est une question de liberté d'expression. Mmh. Voilà, ça existe dans d'autres pays, il n'y a qu'en France où, à cause de cette circulaire, on peut poursuivre des militants et les condamner, alors qu'en réalité, ils informent tout simplement la population par des actions de tractage, je vous disais, devant des supermarchés, pour dénoncer la confiscation des terres dans les colonies israéliennes, et qu'ils ne font rien de plus. Rien de plus. Donc il faut absolument exiger l'abrogation d'une part de cette circulaire, et deuxièmement, eh bien, être de plus en plus nombreux si d'autres militants sont poursuivis, pour les soutenir et pour exiger que justice soit faite. Il ne faut plus condamner des militants qui se battent pour une cause qui est tout à fait juste, qui est tout à fait légitime et qui demande tout simplement des droits.
Concrètement, si on veut agir pour boycotter ces produits, est-ce que c'est le consommateur qui le fait quand il fait ses courses, quand il fait ses achats, ou est-ce que c'est je dirais les centrales d'achat qui commandent leurs produits à travers le monde?
Ben, les deux. Bon, c'est vrai que le plus facile, c'était de toucher au départ le consommateur, parce que on peut le toucher sur les lieux où il fait ses courses, tout simplement. Mais il faut aussi, parce qu'il y a boycott, il y a aussi désinvestissement, je vais quand même en parler, il y a aussi, bien sûr, agir sur ceux qui achètent ces produits-là, hein, qui sont pas des tout petits commerces, bien évidemment, des grosses centrales d'achat, des grosses entreprises, et puis faire en sorte aussi que les entreprises qui veulent investir en Israël, eh bien, ne le fassent pas. Voilà, parce qu'il y a eu des grandes campagnes menées par rapport à Veolia, Alstom, etc., pour dire aujourd'hui on ne peut pas investir dans un pays qui ne respecte pas des droits élémentaires. Et je pense que ça c'est aussi important, hein, le désinvestissement, que le boycott. Et il y a un autre aspect aussi, et c'est d'inciter, ce que vous parlez des artistes, aussi, à ne pas se rendre en Israël. Il y a des artistes qui ont parfois annulé leurs concerts, par exemple, pour se montrer solidaires du peuple palestinien. Voilà. Je pense que c'est plus ces outils-là, hein, à la fois le boycott des individus, mais aussi imposer que ce boycott se réalise auprès de grandes sociétés qui veulent acheter ou investir en Israël, pour pouvoir toucher là où ça fait mal, en fait, hein, au porte-monnaie, parce qu'en réalité, c'est l'économie israélienne qui va être touchée. Et peut-être que c'est ça qui pourra amener ce gouvernement à réfléchir, mais aussi la population en Israël, qui doit aussi prendre position, clairement, voilà, et qui, aujourd'hui, doit manifester aussi eh bien, son désaccord vis-à-vis de son propre gouvernement qui continue à mener une politique de colonisation.
Alors, on peut signer aussi une pétition en ligne, je crois.
Tout à fait. Il y a une pétition
www.france-palestine.org/boycott-liberté-pour-l'action. Enfin, je devrais pas le dire parce que moi, je ne devrais pas prendre parti. Finalement, je suis journaliste, donc j'ai pas à prendre parti. Enfin, on peut signaler que voilà, les gens, s'ils cherchent à signer une pétition, ils peuvent le faire. Donc voilà,
ils peuvent le faire.
Alors. Comme je vous ai, donc Myriam Martin, vous qui êtes conseillère régionale donc de ce mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire, et vous donc venez du front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. On a appris hier soir que Jean-Luc Mélenchon donc était candidat pour les élections présidentielles de 2017. Il ne compte pas participer aux primaires, donc il montre là qu'il est totalement en dehors du jeu en fait de la gauche actuelle. Et est-ce que vous pensez que c'est un bon choix de sa part?
Écoutez, je ne commenterai pas le choix de Jean-Luc, qui est quelqu'un que je respecte, un ami, un camarade. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que pour moi, l'objectif lors de cette campagne qui va commencer à s'ouvrir, évidemment, c'est de rassembler la vraie gauche. Voilà, la vraie gauche de transformation sociale, la gauche écologiste, la gauche démocratique, la gauche qui n'a pas renoncé à ses combats, qui n'a pas renoncé à ses valeurs, qui n'a pas renoncé à ses principes, contrairement à ce que nous montrent malheureusement le gouvernement et le pouvoir actuel. Je pense en particulier au débat autour de la déchéance de nationalité. Ce qui fait que le vrai combat d'aujourd'hui, c'est celui-là. On verra qui est-ce qui peut incarner ce combat-là. Mais d'abord, et notre proposition est claire de ce point de vue-là, en tout cas ensemble, qui est effectivement une des trois composantes du Front de Gauche, c'est de rassembler toute cette gauche, qu'elle soit sociale, politique, syndicale, que ce soit des citoyens, puisque monsieur Jean-Luc Mélenchon parle effectivement des citoyens, tous ceux et toutes celles qui ne se retrouvent pas et qui combattent malheureusement depuis 2012 la politique de gouvernement qui les a énormément déçus. Voilà, nous, comment on pose les termes du débat. Après, se déclarer candidat, candidate, je pense que c'est un deuxième débat et donc je ne commenterai pas la décision prise par Jean-Luc.
En tout cas, on peut dire qu'il y a une brèche d'ouverte, une grosse brèche, parce que, évidemment, même du côté des pro-Hollande du début, il y a un peu de désertion, hein. Il y a ceux qui doutent, qui doutent de cette politique et qui, franchement, veulent autre chose, quoi. Hein. Donc, il y a sans doute une brèche de ce côté-là. Donc, peut-être
mais
que c'est dans ce.
Il y a aujourd'hui quelque chose à reconstruire à dessein, à gauche, bien sûr.
C'est à dessein que Jean-Luc Mélenchon, se porte candidat, parce qu'il se dit. Oh, il y a des voix, parce qu'il a fait quand même un bon score en 2012.
Tout à fait.
Il était haut dans les sondages, et je crois pas qu'il était au niveau où il était dans les sondages, mais en tout cas, il a fait un bon score, parce que plus de 10%, c'est quand même pas mal. Hein, voilà.
Donc, il avait même fait plus de 11%.
Plus de 11%,
oui.
D'accord, entendu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Myriam Martin d'être intervenue. Vous étiez loin de chez nous, vous êtes complètement dans le sud-ouest. Du côté quoi, de Toulouse ou
Toulouse,
voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu
merci
sur Fréquence IE et on vous dit excellente journée et puis bonne continuation.
Merci
à vous.
Au revoir, bonne journée.
Au revoir.